Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Françaises et Françaises, des groupes d'enragés se proposent de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes de notre société libre. Françaises et Françaises, le gouvernement doit défendre la République, il la défendra. Je m'adresse à vous, avec calme, mais avec gravité. Étudiants, ne suivez pas les provocateurs qui déclarent eux-mêmes se désintéresser des trois quarts d'entre vous. Écoutez la voix de la raison. Nous sommes prêts à entendre toutes vos revendications légitimes. Ne les ruinez pas par des excès. Français et Françaises, il vous appartient de montrer, par votre sang-froid, mais aussi par votre résolution, que quelles que soient vos préférences politiques, quelles que soient vos revendications sociales, vous refusez l'anarchie. Le gouvernement fera son devoir. Il vous demande de l'aider.
L'allocution TV du Premier ministre Georges Pompidou, c'était au lendemain de la nuit des barricades au Quartier Latin, le 12 mai 1968. Une voix qui vous est familière, monsieur le Premier ministre Édouard Balladur, bonjour.
Bonjour.
Mai 68 fêté, mai 68 commémoré, mais mai 68 réservé, car toute la France n'a pas participé au joli mois de mai, ou bien pour le dire autrement, certains étaient du côté du pouvoir. C'était votre cas, monsieur le Premier ministre, et c'est ce que vous racontez dans un récit « L'arbre de mai ». Vous étiez pendant les événements conseiller aux affaires sociales et juridiques auprès de Georges Pompidou. Pourquoi avoir eu envie de raconter votre mai 68 ?
Parce que c'était un grand événement. La preuve, c'est qu'on en parle encore 50 ans après. Je ne suis pas persuadé qu'il ait eu des côtés aussi positifs que le disent parfois certains. Et parce que c'est surtout un événement qui m'en a beaucoup appris sur le comportement des hommes dans la difficulté. Et la difficulté était très grande à l'époque pour ceux qui avaient la responsabilité du pouvoir. Et ça m'a également beaucoup, je dirais, fort mal édifié. Comme on dit dans Tartuffe, je crois, fort mal édifié sur les comportements humains en fonction des circonstances, c'est-à-dire sur une capacité extraordinaire d'adaptation aux circonstances qu'ont ceux qui n'ont pas des convictions très fermes, bref, qu'ont les opportunistes, pour parler clair.
Il y a un homme dans ce récit qui apparaît central et qui semble tenir pratiquement à lui seul la légitimité de l'État, c'est Georges Pompidou.
Alors justement, je crois que il ne faut pas oublier que Georges Pompidou, en la circonstance, a réussi avec l'aide, le soutien et sous les auspices du général de Gaulle, a réussi quelque chose d'absolument extraordinaire dans notre histoire politique. Depuis deux siècles, Dieu sait que nous avons connu des révolutions, des émeutes, des coups d'État divers. Et l'issue a toujours été la même. Soit le pouvoir en place capitulait et disparaissait, soit il réprimait avec parfois beaucoup trop d'énergie. Je pense à la Commune de Paris, notamment. Eh bien, grâce notamment à l'action de Georges Pompidou, et finalement d'ailleurs au fait que le général de Gaulle a ressaisi la direction des choses dans les derniers jours, grâce à l'action de Georges Pompidou, le régime a survécu et sans répression excessive. C'est sans précédent depuis deux siècles dans notre histoire. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi? Et là aussi, c'est une leçon que j'ai méditée. Au début du mois de mai, la grande majorité de l'opinion voyait avec plutôt amusement, parfois beaucoup de sympathie, le mouvement étudiant. Et il y avait quand même une sorte de coagulation de l'opinion pour le soutenir, en estimant qu'après tout, il était temps d'évoluer, que les revendications qui étaient présentées étaient raisonnables, que certes il y avait des violences, mais qu'après tout c'était inhérent à l'âge et qu'il fallait bien en quelque sorte que jeunesse se passe. Ça a pris un tour très dramatique quand même. Au moment du 11 mai, avec l'assaut qui a tenté d'être donné à la Sorbonne. Et Pompidou, durant tout le mois de mai, avait une ligne directrice, deux d'ailleurs. D'abord, éviter une répression trop violente, pour éviter des drames, et deuxièmement, détacher l'ensemble de la population du soutien aux étudiants. Et c'est d'autant plus nécessaire que, lorsque le 13 mai, on a pu assister au succès de la grève générale qui avait été décidée à la suite de la tentative d'occupation de la Sorbonne le 11 mai, les syndicats se sont mis en grève. Il y a eu jusqu'à 8 millions de grévistes dans la France de mai 68, avec arrêt des transports, de toutes les fonctions collectives, avec absence d'approvisionnement, parfois en électricité, parfois en nourriture, avec paralysie dans les hôpitaux, avec paralysie également dans la distribution d'essence. Les Français ont commencé à se rendre compte que les choses étaient quand même plus sérieuses qu'ils ne l'avaient cru, et que le pays n'avait aucun intérêt au maintien du désordre. Et les syndicats s'en sont rendus compte aussi. Et toute l'action de Georges Pompidou, ça a été, je le répète, un, d'éviter la répression excessive, et deux, de diviser, pour parler clair, de détacher les syndicats du soutien des étudiants, et de, grâce à un accord avec les syndicats, de reprendre les rênes.
Le général de Gaulle était partisan, c'est en tout cas la sensation qu'on a en vous lisant Édouard Balladur, le général de Gaulle était partisan d'une répression plus forte.
Pas seulement en me lisant, tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Sa réaction première, c'était de dire bah, une émeute, ça se prend au début, il faut au début être extrêmement énergique et après les choses se règlent. C'est ce qui avait été tenté dans les premiers jours du mois de mai et ça avait échoué. Ça avait échoué, ça avait donné lieu à des violences que le gouvernement n'avait pas pu maîtriser. Et finalement, l'opinion avait basculé du côté des étudiants et après du côté des grévistes. Et c'est pourquoi l'attitude de Pompidou, ainsi que celle de plusieurs de ceux qui l'entouraient au gouvernement, a été celle que je vous ai dite. C'était une attitude politique. Dans un pays démocratique au XXe siècle, on ne résout pas les problèmes contre l'opinion publique. Il faut la faire basculer vers soi quand elle s'est éloignée. Et c'est ce qui explique toute l'attitude de Pompidou. Mais pour autant, il n'y a jamais eu d'instruction formelle du général de Gaulle qui n'aurait pas été respectée. Simplement, c'était les réactions du général dans les discussions de ministres autour de lui, quand il avait autour de lui le Premier ministre et les ministres. Un certain nombre d'avis divergents s'exprimaient et finalement, le général acceptait la décision qui était prise.
Lorsque le général de Gaulle s'est rendu le 29 mai en secret à Baden-Baden, vous étiez dans le premier cercle du pouvoir, Édouard Balladur, puisque je rappelle que vous étiez à l'époque conseiller aux affaires sociales et juridiques auprès de Georges Pompidou. Avez-vous eu peur ? Avait-on l'impression que le pouvoir était vacant ou qu'il n'était tenu que par le Premier ministre ?
Il n'était tenu que par le Premier ministre. C'était une situation fragile, bien entendu. Parce que, aussitôt, tellement fragile que, dès la veille, un certain nombre de leaders de la gauche, M. Mitterrand, M. Mendès France, M. Rocard, avaient fait comme si le pouvoir avait disparu et avaient fait état de leurs ambitions pour la suite des choses, en appelant à la démission du gouvernement. Et il est vrai que la disparition du général, pendant quelques heures, on n'a plus su où il était, créer un sentiment de vacuité du pouvoir et que mettait le Premier ministre dans la situation d'avoir à prendre peut-être de très graves responsabilités dans l'ignorance où il était du lieu où se trouvait le général. Fort heureusement, ça n'a duré que quelques heures, Le général a passé quelques heures à Baden-Baden, puis il a décidé de rentrer à Colombey et de tenir le Conseil des ministres le lendemain comme il l'avait décidé.
Vous décrivez un Georges Pompidou flegmatique, lucide sur l'état du pays et de l'opinion, Édouard Balladur.
Oui, c'est ce qui l'a aidé à surmonter la difficulté. Il a toujours été très maître de lui. Et il a impressionné tous ceux qui l'ont rencontré, je pense aux négociations de Grenelle avec les syndicats, où nous avons passé deux nuits et où il a dominé les débats par d'abord son calme, par sa connaissance profonde des dossiers, sa maîtrise dans la discussion, l'équilibre dont il faisait preuve, l'habileté aussi, parce qu'il expliquait à la CGT qu'il fallait, elle avait intérêt au retour à l'ordre au moins autant que le gouvernement. Il expliquait à la CFDT que la prolongation du désordre risquait de profiter surtout à la CGT mais pas à elle. Et il expliquait donc à tout à chacun que son intérêt était de conclure. On a conclu. Malheureusement, ça n'a pas été adopté chez Renault quelques heures après. Et c'est là où il y a eu deux jours très difficiles entre le lundi et le mercredi soir. Mais quand on a su que le général était rentré de Baden à Colombey, au fond, l'affaire était réglée.
Georges Pompidou très calme, Jacques Chirac qui participait également à ce Grenelle, on dit qu'il était armé, Édouard Balladur ?
Non, mais non, on a raconté beaucoup d'histoires. Jacques Chirac était à l'époque secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires sociales. En tant que tel, il avait en charge les problèmes de l'emploi, il connaissait les syndicats et comme il était d'une grande fidélité à Georges Pompidou, on le voyait assez souvent à Matignon. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait un revolver sur lui, ce sont des fables. Enfin, je pense. En tout cas, moi je n'ai
Vous ne l'avez pas vérifié ?
Moi je n'en avais pas.
Le Grenelle, c'était votre idée, Édouard Balladur.
Oui.
Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement pour décrocher les syndicats du soutien au désordre et pour leur montrer qu'ils pouvaient, par des relations, je dirais, normalisées, redevenues normales, obtenir des satisfactions qui leur permettraient d'appeler à la reprise du travail. C'était l'idée, au fond, inspirée par la politique de Georges Pompidou, c'est-à-dire, si j'ose dire, diviser l'adversaire pour faire en sorte que le calme revienne. Et j'avais suggéré d'ailleurs que ça se passe au ministère du Travail, parce que si ça s'était passé à Matignon, cette réunion des syndicats, ça aurait évoqué l'idée des accords de Matignon de 1936 au temps de Léon Blum et du Fonds populaire, et ça aurait peut-être fait naître une confusion dans l'esprit. Donc on s'est réunis à Grenelle, rue de Grenelle. Et d'ailleurs, j'observe avec un peu d'amusement que maintenant, Grenelle est devenu une sorte de substantif pour désigner des concertations et des réunions. Il y a le Grenelle de l'environnement, le Grenelle des banlieues, etc., etc.
Les syndicats d'un côté, les partis de gauche de l'autre. Alors, vous avez évoqué le face-à-face entre Georges Pompidou et le général de Gaulle. Il y avait aussi un autre face-à-face, celui entre Georges Pompidou et François Mitterrand.
Non, pas à cette époque-là. Enfin, face à face, ils étaient adversaires, puisque Pompidou était Premier ministre et Mitterrand était, surtout depuis l'élection présidentielle de 1965, le leader le plus visible de l'opposition. Donc ils avaient eu l'occasion de croiser le fer l'un avec l'autre. Mais en 1968, l'adversaire, ça n'était pas Mitterrand. L'adversaire, c'était le désordre. Et c'était la grève générale. Il fallait pas se tromper. À l'époque, la gauche, que ce soit Mendès France, Mitterrand ou Rocard, utilisait cette coagulation entre la grève et le mouvement étudiant pour essayer de mettre le gouvernement en difficulté et de l'abattre. Mais le problème n'était pas Mitterrand ou Pompidou à l'époque.
Et justement, vous êtes assez dur sur cet état dans lequel était l'appareil d'État. Justement, vous dites qu'il était en quelque sorte tétanisé. Le gouvernement, l'administration, cherchant appui l'un sur l'autre, vacillait, les hiérarchies s'effondraient. Édouard Balladur, on a l'impression que l'appareil d'État était tétanisé.
Oui, mais c'est ce que j'écris, mais je ne suis pas dur, je suis lucide. En le disant, par exemple, lorsque on téléphonait à un préfet J'en ai fait l'expérience personnelle pour lui dire que la gare SNCF était paralysée, qu'il fallait la faire dégager. La première fois, il vous prenait au téléphone, et la deuxième fois, il ne répondait plus, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir trop d'histoires. Bon, tous les préfets ne se sont pas comportés comme ça, je m'empêche de le dire, mais ce sont des comportements qui ont existé. Et comme par hasard, dans les administrations, on s'est mis à faire place nette dans les dossiers. Et un certain nombre de responsables ont, comme par hasard, réactivé d'anciennes relations avec des dirigeants de la gauche ou de l'extrême gauche. Mais vous savez, ça, c'est la nature humaine. Lorsque je vous disais que j'avais été tout à fait fort mal édifié, pour parler comme Madame Pernelle, je crois, dans Molière, fort mal édifié, ça voulait dire que le comportement humain s'est révélé être ce qu'il est toujours quand les circonstances sont difficiles.
C'était de la lâcheté et de l'opportunisme ?
C'était de l'opportunisme qui entraînait la lâcheté.
Et lorsque vous évoquez justement la manière dont les uns et les autres se sont comportés, vous parlez aussi des modes intellectuels, de la manière dont des écrivains dont l'heure était passée tentaient de revenir dans le jeu, de se rapprocher de la jeunesse.
Oui, il saisissait l'occasion de montrer qu'eux aussi étaient du côté de ce qu'ils estimaient devoir être l'avenir et le renouveau. Cela étant, j'étais pas très âgé à l'époque, j'étais plus un jeune homme, mais enfin, j'ai pas manqué moi aussi d'être sensible à ce que ce mouvement à ses débuts pouvait receler de spontanéité, de désir d'innover, de goût de la liberté et de refus des conformismes. Après tout, c'est la tentation de quiconque est jeune. Et ça avait quelque chose que je pouvais parfaitement comprendre. Ce que je ne comprenais pas, c'était la violence. Parce que j'ai jamais considéré que la violence était le bon moyen de faire aboutir les choses. Et une violence un peu facile, car après tout, jeter des pavés sur les CRS dans la rue, organiser une sorte d'anarchie à la fois à l'Odéon, à la Sorbonne et un peu partout, où est-ce que ça menait? Où est-ce que ça conduisait? Ça ne servait qu'à discréditer ce mouvement. Et ce qu'il fallait faire pour les responsables du pouvoir, c'était à la fois le comprendre, en tirer les conséquences, c'est d'ailleurs le sens du discours de Georges Pompidou que vous avez retransmis au début de notre émission. C'était le sens aussi de ce que voulait faire le général de Gaulle avec la participation. Il fallait comprendre d'un côté, mais il fallait d'autre part résister au désordre et que chacun retrouve sa place normale dans une démocratie.
D'où l'ambiguïté, monsieur le Premier ministre, du titre que vous avez choisi pour ce récit, l'arbre de mai, puisqu'il désigne différentes choses, l'arbre de mai.
Oui, il désigne d'abord les victimes, puisqu'on a scié et abattu beaucoup d'arbres. Et je ne pense pas que ça ait fait progresser beaucoup les idées que l'on voulait défendre à l'époque. Oh, c'est mon éditeur de l'époque, Marcel Julien, qui m'avait recommandé ce titre. C'est lui qui l'a inventé et je l'ai trouvé très bon. Je peux le dire puisque c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'ai choisi, mais c'est pas moi qui l'ai imaginé.
Il y a également à la suite de cela, donc, une question pour les partis de gauche, une question également pour la droite, pour la division de la droite.
La division de la droite, elle s'est au contraire, après les événements, elle s'est au contraire ressoudée. Elle a peut-être été divisée au début, la droite, au début des événements, dans la première moitié du mois de mai, ou peut-être même un peu plus. Mais ensuite, lorsque par son discours qui était extraordinaire, le général a rassemblé tous ses partisans autour de lui, il n'y a plus de difficultés entre la droite, le centre, ceux qui étaient plus libéraux, ceux qui étaient plus étatistes, plus européens. Tous se sont rassemblés, ça a été l'une des élections législatives, l'une des grandes victoires de l'histoire de la Ve République. L'une des plus grandes victoires de l'histoire de la Ve République. Un mot d'ailleurs là-dessus, Georges Pompidou considérait que le référendum sur la participation n'était pas une bonne idée. D'ailleurs, le général qui l'avait proposé avait dès le lendemain dit quelque chose comme « j'ai mis à côté de la plaque, c'est bon ». Et lors de leur conversation l'après-midi du 30 mai, dans son allocution qu'il lui avait montrée, le général de Gaulle avait soumis à Georges Pompidou, a montré à Georges Pompidou son texte dans lequel il appelait à un référendum. Et Pompidou, qui lui avait présenté sa démission le matin, lui a dit « vous m'avez demandé de reprendre ma démission, je le fais, mais de mon côté, je vous demande de renoncer au référendum et de prendre au mot l'opposition, puisqu'elle réclame des élections législatives, faisons-les. Et il faut dissoudre l'Assemblée. » Et le général a tout de suite dit « d'accord ». Il a d'ailleurs, c'est marqué dans son texte qui est publié, je crois, aux Archives nationales, le texte de son projet de discours, son brouillon, il a rayé le référendum, il a substitué la dissolution de l'Assemblée. Si bien qu'ils ont ensemble gagné, même s'il n'y avait pas toujours eu la même vision des choses et des événements et du meilleur moyen de les surmonter.
Finalement, Édouard Balladur, l'un des mots qui prédomine dans votre récit à l'issue de mai 68, c'est celui de déception. Vous, votre déception par rapport aux hommes, déception également pour ceux qui ont participé à ce mai 68 et n'ont pas eu les fruits escomptés.
Oui, j'ai appelé ça un divertissement triste, parce qu'il a fait beaucoup de victimes finalement. Est-ce qu'il a été fécond pour l'avenir ? Ou on peut dire que les choses n'ont plus été les mêmes à l'avenir, que la vision qu'on avait de la société, de la famille, des rapports avec le pouvoir, de la conception qu'on pouvait se faire de la liberté n'étaient plus les mêmes. Ça a été une sorte d'insurrection anarchiste, mai 68. Je crois que ceux qui l'ont faite n'étaient pas tentés par la possession du pouvoir. Ce qu'ils voulaient, c'était jeter à terre ce pouvoir qui leur déplaisait pour des raisons qui étaient les leurs, qui leur étaient propres. Mais il n'y a pas beaucoup de construction, il n'y a pas de proposition pratique et concrète. Ça a été une sorte de bouffée d'anarchisme qui s'est résorbée, mais il en est resté des traces dans la conception qu'on se fait des rapports sociaux et politiques et des droits respectifs de l'individu, de la collectivité. Beaucoup de choses ont changé dans les esprits.
Et alors, vous étiez dans cette même maison, la maison ronde à l'ORTF à l'époque, en 1963, et vous y êtes retourné en 1968 pour une réunion représentant l'État français.
Oui, je représentais le Premier ministre au conseil d'administration de l'ORTF.
Quelle était l'ambiance à cette époque ?
Elle était assez triste et dans ce conseil. L'ORTF était en grève, bien entendu. C'est une occasion à ne pas manquer, si j'ose dire. Et au sein du conseil d'administration, qui était composé de personnalités prestigieuses, vénérables et tout à fait respectables, l'atmosphère n'était pas à l'optimisme et on sentait, comment vous dire, une sorte d'incapacité à imaginer comment on pouvait sortir de la difficulté. C'était pas un spectacle très roboratif.
Que faisaient les journalistes à l'époque ?
Ben, ils étaient en grève, bien entendu.
Et puis, vous revenez d'un mot dans votre préface, dans la nouvelle préface que vous avez apportée à cet arbre de mai, Édouard Balladur, sur les pompeuses commémorations, ce qui a lieu aujourd'hui. Quel regard posez-vous dessus ?
Mais écoutez, je ne trouve pas que ce soit un événement dont nous ayons lieu d'être tellement fiers. D'une part, je le répète, parce que ceux qui s'insurgeaient contre la société telle qu'elle était ne proposaient rien de précis et se proposaient uniquement de jeter à bas un certain nombre de structures. Et d'autre part, qu'il y avait quand même un goût amer dans la bouche de tous ceux qui, ayant des responsabilités, n'avaient pas été en mesure d'y faire face suffisamment. Personne ne posait sur soi-même un regard exempt de lucidité et éventuellement de critique. Personne n'était tellement satisfait de soi-même, il me semble, à la fin de mai 68. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que ce soit l'un des grands événements dans lesquels la France a montré la voie au monde, ce qui est souvent une tentation française. Nous aimons bien croire ou faire croire que nous faisons à une valeur universelle. Ça a été le cas dans un certain nombre de moments de notre histoire, aussi bien sous l'Ancien Régime qu'à la Révolution ou après. Mais véritablement, je ne pense pas que ça a été un modèle. Il y a eu d'autres pays dans lesquels l'agitation étudiante a été plus forte qu'en France, et d'ailleurs a donné lieu à des répressions parfois sanglantes et cruelles. Il n'en est pas résulté un modèle français, si je puis dire. Il y a un modèle français des droits de l'homme, il y a un modèle français du siècle des Lumières. Il n'y a pas de modèle français de mai 68. Donc, bon, c'est un événement qui a été important, mais il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de s'en glorifier.
Quelle leçon en tirer en conclusion, Édouard Balladur ?
Que tout est toujours possible. On avait vécu 10 ans d'un régime qui avait résolu beaucoup de problèmes et qui avait restauré l'image de la France dans le monde, et brusquement, les choses s'effondraient.
Merci beaucoup Édouard Balladur. L'Arbre de mai, c'est votre livre republié aux éditions Plomb.